Le diabète sucré est une maladie de la nutrition. L'organisme atteint ne sait plus stocker ni utiliser le glucose. Les signes de cette affection sont bien connus. Voici un sujet obèse dont l'appétit et la soif deviennent insatiables. Il élimine 4 à 5 litres par jour d'une urine sucrée. Le taux du sucre dans le sang passe du chiffre normal de 1 g à 2 et 3 g par litre. Ce malade est sensible aux infections. Infections cutanées, furoncles, anthrax, infections des muqueuses, pharyngite, gingivite, infections pulmonaires, tuberculose. S'il n'est pas soigné, les complications artérielles vont surgir. Elles frappent les artères de la rétine, du rein, des membres inférieurs. Bientôt, l'appétit est perdu, le malade maigrit, l'haleine prend l'odeur d'acétone, la respiration devient difficile, puis, aux maux de tête et à la somnolence, succède le coma diabétique. Jusqu'au début de ce siècle, les médecins assistaient impuissants à l'évolution de cette maladie. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science, le mécanisme du diabète a pu être en partie élucidé. Un traitement rationnel et efficace est enfin devenu possible. Nous disposons désormais d'une arme remarquable, l'insuline. Voyons ensemble comment le patient effort des chercheurs a permis cette grande découverte de l'insuline. Les médecins jadis parlaient de diabète chaque fois que le volume d'urine éliminé par un individu était augmenté. Dès la plus haute antiquité, les textes sanscrits mentionnent l'émission d'urine de miel par certains malades. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, Thomas Willis a la curiosité de goûter l'urine des diabétiques. Il lui trouve une saveur sucrée. Les médecins utilisent aujourd'hui des méthodes moins héroïques pour rechercher le sucre. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que le sucre est identifié comme tel. Franck, en ajoutant un peu de levain aux urines, provoque la fermentation du sucre en un alcool qu'il dit très agréable. Longtemps, l'origine du diabète sucré resta mystérieuse. Galien accusait les reins, Paracels le sang, Rollo en 1797 l'estomac. En 1848, Claude Bernard a le mérite de reconnaître que le sucre éliminé anormalement par les diabétiques est du glucose et que chez l'individu en bonne santé, le glucose est mis en réserve dans le foie sous la forme d'une molécule composée, le glycogène. Pour Claude Bernard, le diabète était dû à la formation en excès de sucre hépatique. Mais voici que deux Français, Lancereau et son élève Lapierre, découvrent à l'autopsie de diabétique l'atrophie d'une glande, le pancréas. Cette glande est située dans l'abdomen, près de l'estomac, et s'ouvre dans la première partie de l'intestin grêle par un canal, le canal pancréatique. Les chercheurs tentent alors des expériences de vérification chez le chien. En 1889, von Mehring et Minkowski enlèvent le pancréas à des chiens qui présentent alors tous les symptômes du diabète. Depuis, l'ablation du pancréas a été pratiquée chez les animaux les plus divers. C'est ainsi qu'on a pu rendre diabétiques des singes, des pigeons, des canards, des oies, des faucons, des tortues, des grenouilles, des anguilles. Mais quelle pouvait être la substance fabriquée par le pancréas et dont le défaut était responsable de la maladie? Les physiologistes étaient encore loin de la solution. Examinons au microscope un pancréas. Nous le voyons constitué de deux glandes différentes enchevêtrées. D'une part, une glande à sécrétion externe, ressemblant à une glande salivaire, déverse par un conduit dans l'intestin un produit riche en ferments digestifs. D'autre part, une glande à sécrétion interne, formée de cellules disséminées dans tout le pancréas. Ces cellules sont groupées en îlots, ordonnées autour de capillaires sanguins. Leur fonction resta longtemps une énigme. Mais en 1905, Laguerre réalisa une expérience décisive. Il ligatura le canal pancréatique d'un chien. Le pancréas ne pouvait plus rejeter le sucre digestif qu'il fabriquait. Troublé dans son fonctionnement, il finit par dégénérer. Et pourtant, le chien ne devint pas diabétique. L'examen au microscope révéla que quelques cellules, les cellules des îlots, avaient échappé à la dégénérescence. Et l'on pensa avec raison que leur survie avait préservé l'animal du diabète. Ces îlots formaient une véritable glande à sécrétion interne, déversant dans le sang une hormone qu'il restait à isoler. Cette hormone inconnue fut baptisée par Schaeffer insuline, du mot latin insula qui veut dire îlot. C'est la coexistence dans le même organe des deux glandes, à sécrétion externe et à sécrétion interne, qui rendit extrêmement difficile l'isolement chimique de l'insuline. Nous savons aujourd'hui qu'après la mort, le pancréas se digère lui-même. Il n'est plus protégé contre son propre suc digestif, la trypsine, qu'il contient. Chaque fois qu'on rapportait au laboratoire des pancréas prélevés aux abattoirs, il était trop tard, la trypsine avait déjà digéré l'insuline. Au cours de l'année 1920, Banting, un jeune docteur canadien de l'Université de Toronto, et Best, un étudiant de la même université, voulurent isoler l'insuline. Pour défendre cette hormone contre l'attaque du suc pancréatique, ils utilisèrent d'abord le vieux procédé de Laguesse de ligature du canal excréteur. Nous l'avons décrit il y a un instant. Le pancréas dégénéré ne contenait plus de trypsine, les îlots étaient conservés et leur extrait renfermait l'insuline intacte. Redoublant d'ingéniosité, les jeunes chercheurs canadiens eurent ensuite l'idée de faire l'extraction chimique de pancréas appartenant à des fœtus de bovins de moins de 5 mois. À cette époque du développement embryonnaire, la glande à sécrétion interne existe déjà, alors que l'organe ne contient pas encore de ferment digestif. Enfin, avec l'aide de Colip, professeur de biochimie, ils trouvèrent un troisième procédé. Ils plongèrent le pancréas immédiatement après la mort dans de l'alcool faiblement acide. Ce traitement détruisait les ferments du suc pancréatique et laissait intacte l'insuline. Celle-ci, injectée à des chiens diabétiques, faisait disparaître les signes du diabète. Vous le voyez, la découverte de l'insuline n'est pas le résultat d'une soudaine illumination de génie jaillissant dans la nuit. Elle est l'aboutissement du long effort collectif de tous les chercheurs qui, pendant des dizaines d'années, ont pas à pas cerné le problème. L'immense mérite des savants canadiens est d'avoir très clairement situé ce problème, d'avoir su mettre en œuvre des procédés qui séparaient le suc digestif de l'hormone, et d'avoir choisi pour doser l'activité de leur principe actif le chien diabétique. C'est le triomphe d'une méthode scientifique rigoureuse. Banting, Best et Colip tenaient enfin dans une éprouvette le produit que l'organisme du diabétique ne sait plus fabriquer. Il restait à en faire la purification, l'analyse chimique et l'application à la thérapeutique. Nous en parlerons dans notre prochaine causerie.